Je suis désolée, aujourd'hui le volume n'est pas au niveau de ma gorge, c'est le micro qui va être le volume, parce que j'ai été malade toute la semaine. Mais c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Et c'est intéressant que Nancy ait dit qu'en juillet, certaines personnes posaient la question si on allait avoir un thé de Noël, parce que je n'étais pas ici au mois de juillet. Mais pendant l'été, alors qu'on est allé chercher nos garçons au camp, là où ils étaient, j'ai vraiment eu cette pensée, pendant que le directeur du camp clôturait le camp, il a dit quelque chose, et quand il a dit cette chose-là, je me suis dit, si cette année il y a un thé de Noël, ça c'est le thème. C'était le mois d'août. Donc c'est intéressant de voir ce thé de Noël. Je crois que Dieu l'a voulu depuis longtemps. Des fois, on n'est pas conscient des choses. On se dit, oh, les choses arrivent par accident, par hasard. Mais il n'y a rien qui arrive par accident ou par hasard. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Hein? Et on est très contente que chacune de vous puisse être ici aujourd'hui. Mais avant d'être venue cet après-midi, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Si vous êtes comme moi, avant d'aller quelque part, vous réfléchissez. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'il me faut? Hein? Et si je vais au coin de la rue ou si je vais à l'autre bout du monde, je n'ai pas les mêmes besoins, je ne me prépare pas de la même façon. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Pour aller au coin de la rue, ben, je mets juste ma veste et puis j'y vais. Si je viens à un événement spécial, je vais faire un peu plus attention, qu'est-ce que je porte comme habit? Mais si je fais un long voyage, ben alors là, je vais me préparer et réfléchir, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, si vous regardez les informations, vous avez peut-être entendu parler de ce voyage autour du monde en bateau qui a commencé au mois de novembre. Vous connaissez la course, le Vendée Globe, hein? Qui a entendu parler du Vendée Globe? Oui, plusieurs personnes. C'est une course en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance. Ce qui veut dire que les personnes sont parties au mois de novembre et elles sont vraiment toutes seules pour se déplacer, elles sont toutes seules pour tout faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer un tel voyage? Hein, il faut de la nourriture, assez de nourriture pour toute la durée du trajet, puisqu'il n'y a pas d'assistance possible. Si on demande de l'aide, c'est fini, la course est finie pour la personne. Donc, la nourriture, les vêtements, il faut penser aussi, si je suis malade, les médicaments, si le bateau a un problème, ben, le matériel réparation. Mais qu'est-ce que c'est qui est le plus important dans tout ça, en plus, qu'il ne faut pas oublier? Ce qu'il ne faut pas oublier de prendre avec soi, c'est tout le matériel pour se diriger. Pour le matériel, pour savoir, ok, quelle est la météo, pour savoir est-ce que je passe par cette route-là ou par cette route-là, pour être sûr d'arriver à destination sans accident. Et dans la vie, c'est un peu pareil pour nous. On a besoin de savoir où on va. Parce que si on part juste comme ça et qu'on ne sait pas où on va, ben on n'arrivera nulle part. Ça, c'est pour une chose. Ou on n'arrivera pas forcément là où on voulait aller. Et si on croit qu'on est le fruit du hasard, qu'on est ici dans cette vie pour... Est-ce que tout le monde me voit? J'ai l'impression que je ne vois pas certaines personnes là-bas. Si on a l'impression qu'on est le fruit du hasard et qu'on est ici un jour, on est arrivé un jour sur cette terre, et puis un jour on va partir, et puis qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop. Ben alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher de profiter au maximum de chaque jour qu'on a. Et s'il y a des difficultés, on va se dire, oh là là, c'est terrible. Parce que ben, j'ai que ça, j'ai que cette vie, j'ai que chaque jour que j'ai pour en profiter. Mais si par contre on sait qu'on a été créé par un Dieu qui a créé tout l'univers et qui a formé chacune de nous avec amour dans le ventre de notre mère individuellement, les unes avec les yeux bleus, les autres avec les yeux marrons, les yeux verts, les unes blondes, les autres brunes ou rousses. Ça fait toute une différence parce qu'on sait qu'on n'est pas le fruit du hasard et que même s'il y a des difficultés, on n'est pas seul. Dieu, il est là et il veille sur nous, on peut compter sur lui. Et donc ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous savez d'où vous venez? Et est-ce que vous savez où vous allez? Et quel est le sens de votre vie? C'est un thé de Noël, on vous a invité parce que Noël approche. Et on aime bien parler de Noël. Et Noël, en général, c'est un temps de fête, un temps de joie. Mais pour certaines personnes, Noël, c'est pas facile. Pourquoi? parce que y a des épreuves dans la vie. Hein, personne n'est épargné par les épreuves, et des fois il y a des tragédies, et on peut se poser la question, mais comment est-ce que je peux être heureux, me réjouir à Noël avec tout ce qui se passe autour de moi? Je ne connais pas vos circonstances particulières, mais je suis sûre que les unes et les autres, vous connaissez des situations qui peut-être font que, en ce moment, c'est pas facile de se réjouir à l'idée de Noël. Mais Noël, qu'est-ce que c'est? Il y a des traditions, il y a des coutumes, mais qu'est-ce que c'est vraiment Noël? Hein? Donc déjà, le mot Noël, c'est un mot qui vient du latin, natalis, qui veut dire naissance. Et à Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Donc, réalité ou tradition? Tout ce qu'on sait d'après les récits bibliques, c'est que le jour où il est né, des bergers étaient dans les champs en train de garder leurs troupeaux. Donc, on ne sait pas quel jour on est. Il est né. On sait seulement qu'il est né. Mais il a été décidé un jour de le célébrer, cette naissance, le 25 décembre. Et c'est en 330 après Jésus-Christ que les premières fois il y a eu une célébration de Noël le 25 décembre. C'était par les chrétiens à Rome. Donc oui, Noël c'est une réalité, mais le 25 décembre, de le fêter ce jour-là, c'est une tradition. Et quand on pense à Noël, on voit les crèches, des fois toutes sortes de crèches bien représentées avec des bergers, avec des mages. Et j'ai une question pour vous, ces mages dont on les voit souvent représentés. Combien étaient-ils et comment s'appelaient-ils? Est-ce que vous le savez? Alors, si je vous dis combien étaient-ils, qu'est-ce que vous allez me répondre? Trois. Tout le monde est d'accord? D'accord. La majorité dit oui. Est-ce que vous connaissez leur nom? Non, Gaspard, Balthazar et Mercure. D'accord. Et ça, c'était la réponse que j'attendais, parce que c'est la réponse traditionnelle. Et quand on entend le mot traditionnel, on pense à tradition. Parce qu'en fait, c'est une tradition. Hein? Parce que la croyance populaire nous dit qu'ils étaient trois, qu'ils étaient des rois mages, et qu'ils s'appelaient Gaspard, Balthazar et Melchior. Mais en fait, qui sont-ils vraiment? Donc, le récit que nous avons dans la Bible de la naissance de Jésus se trouve dans le Matthieu chapitre 2, et je vais vous le lire. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin de mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ceci déplut fortement au roi Hérode, qui ordonna un infanticide général, destiné à éliminer le nouveau-né. Hérode fit tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Mais un ange de l'Éternel avait averti Joseph dans un rêve de prendre l'enfant Jésus et sa mère et de les mettre à l'abri en Égypte, où ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Alors, question pour vous. Est-ce que Matthieu dit combien ils étaient? Non. Est-ce qu'il dit qu'ils étaient des rois? Non. Est-ce qu'il donne leur nom? Non. Alors on peut aussi dire, oh mais c'est seulement un récit biblique. C'est peut-être juste de l'imaginaire. Mais en fait, l'évangile de Matthieu n'est pas le seul texte qui parle de la naissance de Jésus et des mages qui sont venus le voir. Il y a un document qui est beaucoup moins connu, hein, et qui date du 1er siècle aussi. C'est un historien juif qui s'appelait Flavius Joseph et qui a raconté exactement le même récit. Comme quoi des mages venus d'Orient sont venus vers cet enfant roi et lui ont offert des cadeaux. Et il mentionne aussi le fait que le roi Hérode, par la suite, a fait tuer tous ses enfants de moins de 2 ans. Donc, ce n'est pas juste l'Évangile qui mentionne ce texte, mais il y a un texte historique aussi. Et donc, on sait donc que le nombre de ces mages n'est pas précisé. Mais alors, d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a 3 rois mages et comment ils s'appelaient ? Donc ça, c'est des traditions qui viennent de récits et des écrits beaucoup plus tardifs. Donc c'est à partir du 3e siècle que le mot de roi est apparu. C'est un homme du nom de Tertullien qui habitait à Carthage, à Tunisie actuelle, qui a utilisé pour la première fois ce nom de roi en faisant référence à des passages de l'Ancien Testament qui parlait du Messie. Donc c'est dans le psaume 72 et dans Ésaïe 60, où il est parlé que des rois viendront se prosterner devant lui et que des rois lui offriront de l'or et de l'encens. Donc il a fait le rapprochement entre ces textes et ce que Matthieu disait, et il dit, donc ces mages, ça devait forcément être des rois. Donc c'est de Tertullien que nous devons ce terme de roi-mage. Pourquoi 3 ? Là, c'est aussi au 3e siècle, un homme du nom de Origène d'Alexandrie, qui lui a dit, ils ont apporté 3 cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, donc un cadeau chacun. C'est logique. Donc voilà d'où viennent ces traditions. Les noms, c'est à partir du 6e siècle qu'ils apparaissent, dans un document araméen. Et puis, au cours des siècles, on les a vus représentés de différentes façons. Et c'est à partir du 13e siècle qu'on voit apparaître l'idée qu'il y en a un qui est jeune, un qui est d'âge mûr et un autre qui est plus âgé. Ça, c'est le 13e siècle. Et au 14e siècle, comme il y avait eu beaucoup de découvertes de différents pays, les gens commençaient à dire, ah ben voilà, ils viennent de différentes origines. Il y en a un qui venait d'Europe, il y en a un qui venait d'Asie, il y en a un qui venait d'Afrique. Parce que comme ça, c'était des hommes qui étaient venus voir Jésus, le roi des Juifs. Donc pour ça, ça représentait tous les peuples de la terre pour qui Jésus était venu. Mais en fait, d'où est-ce qu'ils viennent vraiment ? Donc là, nous avons vu la tradition, mais d'où est-ce qu'ils viennent vraiment ? Donc l'évangile de Matthieu nous parle qu'ils viennent d'Orient. Donc l'Orient, si on pense, Jésus est né à Bethléem. L'Orient, c'est où ? C'est à l'est par rapport à Bethléem. Donc les gens pensent que c'est soit la Babylonie de l'époque qui pour aujourd'hui correspond à l'Irak, ou la Perse de l'époque qui pour nous correspond maintenant à l'Iran. Et en fonction des cadeaux qu'ils ont offerts, l'or, l'encens et la myrrhe, on peut dire, ça se trouve dans ces régions-là, mais aussi en Syrie et en Arabie Saoudite. Et il y a d'autres régions aussi qui peuvent être précisées. Donc on ne sait pas trop exactement d'où c'était, seulement que c'était cette région-là. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Flavius Joseph, cet historien du 1er siècle. Mais au cours des siècles qui ont passé, d'autres personnes ont fait référence à ces mages. Et un de ces personnages, c'est Marco Polo. Vous connaissez le nom de Marco Polo ? C'était un marchand vénitien qui est allé jusqu'en Chine au travers de la route de la soie. Et donc, il a traversé différents pays. Et dans les annales de ses voyages, de ses trajets, il a fait mention qu'il s'est arrêté un jour dans une ville de Perse où on lui a montré des tombeaux qui étaient soi-disant les tombeaux des mages, que les gens du pays vénéraient cet endroit-là en disant « c'est là où les mages qui sont allés voir Jésus sont enterrés ». Et si vous allez visiter la cathédrale de Cologne en Allemagne, ben, on vous dira peut-être que c'est l'endroit où sont enterrés actuellement les mages, que leurs ossements ont été transportés au cours des siècles et qu'ils sont enterré là, et il existe même un livre qui a été écrit pour expliquer comment ils sont partis de l'endroit de Perse où ils étaient enterrés pour se retrouver à Cologne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver toutes ces informations sur l'Internet. Mais on se dit, si Matthieu a mentionné que les mages sont venus et qu'il n'a pas donné de détails par rapport à ces hommes, on peut se demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui était important pour Matthieu, pour mentionner ça et pas mentionner ces personnages-là ? Et pour ça, j'aime beaucoup l'invitation qu'on vous a donnée. Vous vous rappelez cette petite invitation avec ces silhouettes dans l'ombre, avec une carte qui suivent une étoile. Et j'aime beaucoup parce que les silhouettes, elles sont dans l'ombre. On ne voit pas leur visage. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que Matthieu a voulu faire. Il a voulu nous montrer, ces hommes, ce n'est pas l'important. Ce n'est pas eux le centre de l'histoire. Mais c'est ce qu'eux, ils ont fait. Et c'est plutôt là qu'on doit tourner nos regards vers ce que ces hommes ont fait. Hein? Donc, quand l'historien Flavius Joseph a marqué, l'étoile qui leur était apparue signifiait la naissance d'un roi qui dominera sur l'univers. Et cette notion qu'un roi, que les Juifs attendaient un roi qui allait venir pour les délivrer de l'oppression, ça s'était répandu dans l'Orient à l'époque. Vous savez pourquoi c'était répandu ? Parce que quelques siècles auparavant, les Juifs avaient été déportés du pays où ils habitaient à cause de leur désobéissance envers Dieu. Dieu les avait chassés du pays qu'il leur avait promis des siècles auparavant. Et il leur a dit, parce que vous m'avez désobéi, je vous chasse de ce pays-là, qui est bon et qui est agréable. Mais au bout d'un certain temps, Dieu leur avait promis, je vous ramènerai un petit reste. Donc un petit groupe est revenu. Seulement un petit groupe est revenu. Tous les autres, ils sont restés dispersés là où ils étaient. Mais quand on est dispersé quelque part, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on croit au fond de nous, on le garde avec nous. On en parle autour de nous. Donc les Juifs qui étaient dispersés de partout dans l'Orient, ils avaient cette croyance et cette espérance que quelqu'un, ce Messie, allait venir pour les délivrer de l'oppression. Et ils attendaient. Et donc c'était quelque chose qui était connu par les gens autour d'eux. Et donc les mages, quand ils ont vu cette étoile, ils ont compris que cet événement que les Juifs attendaient venait de se produire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé d'agir. Comment est-ce qu'ils ont compris que cette étoile voulait dire que ça y est, le moment était arrivé ? On ne sait pas comment ils l'ont compris. Mais tout ce que nous savons, c'est que quand ils ont vu l'étoile, ils ont eu la certitude, ça veut dire que c'est en train de se passer. Donc différentes hypothèses ont été mises au sujet de cette étoile. Des scientifiques se sont plongés là-dedans, ils ont regardé des écrits anciens de l'époque autour de moins 6 avant Jésus-Christ, jusqu'à plus 6, 12 après Jésus-Christ, tous les écrits qui se trouvent en Orient jusqu'en Chine. Il y a différents documents qui existent et qui relatent différents phénomènes qui ont eu lieu dans cette grande période. Alors certains scientifiques disent que ça peut être un alignement d'étoiles, comme Jupiter, Saturne, la Terre et la Lune, qui tous les 900 ans s'alignent. Et on le voit pendant une période de quelques mois, d'abord un endroit et après un autre endroit. C'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. Et pour les gens de l'époque, de voir cet alignement, ça aurait été quelque chose de vraiment spectaculaire. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une comète qui soit venue, la comète Halley, est passé dans cette période-là de l'histoire. Ça peut être aussi une nouvelle étoile qui est apparue, ou tout simplement un événement exceptionnel qui s'est passé. Le fait est qu'on ne sait pas exactement. Il y a plusieurs hypothèses, mais on ne sait pas vraiment. Et ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils ont vu, ils ont compris et ils se sont levés. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on doit suivre les étoiles ? Est-ce que les étoiles, c'est quelque chose qui doit nous guider, comme certains font avec l'horoscope ? Non, pas du tout. Dieu qui a créé l'univers a placé les étoiles, pourquoi ? On voit dans Genèse 1, quand il parlait de la création, Dieu a placé les étoiles dans le ciel pour éclairer la nuit, avec donc les étoiles et la lune pour éclairer la nuit, le soleil pour éclairer le jour. Il a aussi placé les étoiles dans le ciel pour marquer les jours et les années. Donc les étoiles, la lune, le soleil, ça permet de marquer le jour, les mois et les années. Mais aussi, les étoiles, c'est quelque chose qui est constant, qui ne bouge pas. Où que vous soyez sur la Terre, vous pouvez regarder le ciel. Et si vous avez étudié un petit peu les cartes, les étoiles, la forme des étoiles, vous pouvez regarder en disant, oh, ça c'est la grande ours. Ça c'est Vénus. Ça c'est, oh, l'étoile du berger. Ça vous est déjà arrivé le soir de regarder, surtout ceux qui ont des enfants, des fois c'est regarder, ok, qui c'est qui va voir la première étoile ce soir? Elle dit, ah, tiens, je l'ai vue. C'est quelque chose de spécial, les étoiles, qui attirent notre attention et tout. Et dans l'hémisphère nord, il y a une étoile qui s'appelle l'étoile du berger. Et dans l'hémisphère sud, il y a une étoile qui s'appelle la croix du sud. Et en fait, les navigateurs, les voyageurs au cours des siècles sont utilisés ces étoiles pour se repérer géographiquement. Donc, c'est un bon repère parce que les étoiles, elles ne bougent pas. Donc, si je sais que cette étoile, ça m'indique le nord, ça me permet de m'orienter. Si je la vois ici ou si je la vois là, ça me permet de savoir dans quelle direction il faut me tourner pour aller là où je veux aller et pas aller à l'opposé. Donc, les étoiles sont là. Dieu les a utilisées pour guider l'image. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit se tourner vers les étoiles pour nous guider. Merci. Dieu qui a créé toutes choses a choisi d'utiliser les étoiles pour guider ses mages. Pourquoi? Parce que c'était des savants, des scientifiques qui étudiaient les étoiles. Donc pour savoir où elles se trouvaient et tout. Et donc pour eux, lui, ben voilà, ça va être quelque chose qui va les interpeller parce que c'est leur champ d'intérêt. Mais pour vous et pour moi, ils peuvent utiliser tout à fait quelque chose complètement différent pour attirer notre attention. Parce que Dieu cherche à attirer notre attention, à nous faire réfléchir sur le pourquoi on est là, quel est le sens de notre vie, où est-ce qu'on va. Parce qu'il ne nous a pas juste créés pour nous laisser comme ça, mais parce qu'il nous aime et il veut qu'on puisse le connaître. Et ce qui est important de noter par rapport à ces bergers, non, ces bergers, là, les bergers sont là, mais je parle des mages. Ce qui est important de noter par rapport aux mages, c'est que quand ils ont vu l'étoile, ils sont partis. Quelque part, il y avait la foi dans leur cœur que ce qui avait été dit au sujet de ce Messie qui allait venir était vrai. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ils sont partis avec l'espérance de le rencontrer. Comment est-ce qu'on sait qu'ils avaient cette espérance de le rencontrer? Parce qu'ils sont venus avec des cadeaux. Si on ne s'attend pas à trouver quelque chose, on ne va pas amener des cadeaux. Hein? Ils s'attendaient à trouver cet enfant roi, donc ils ont amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quelque chose qui était très précieux, parce que pour eux, c'était, c'est pas n'importe quel enfant que je vais voir. C'est l'enfant roi, l'enfant qui a été promis depuis des siècles, il faut que j'y amène quelque chose de très spécial. Et donc, ils sont partis avec cette attente de trouver cet enfant. Et la chose logique qui leur semblait de faire, l'étoile est apparue, ça veut dire l'événement est en train de se produire, où est-ce que je vais? C'est le roi des Juifs, donc quel est l'endroit logique d'aller pour trouver le roi des Juifs? Le pays des Juifs, n'est-ce pas? Donc, ils se sont dit, on va à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem. Parce que le texte ne nous dit pas qu'ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Ils ont vu l'étoile et ils sont partis. Arrivés à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché. Ils ont posé des questions. Eux, ils s'attendaient à trouver le roi, le nouveau-né, à quel endroit? La logique veut qu'on le trouve dans le palais, le roi, n'est-ce pas? Ben, c'était pas le cas. C'était pas dans le palais que se trouvait le roi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous rappelez ce que j'ai lu du passage de Matthieu, hein, le roi, qui était le roi de l'époque, a été troublé avec tout Jérusalem et il a rassemblé tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi en leur demandant où devait naître le Messie. Et donc les spécialistes de la loi, ils sont allés, ils ont cherché et ils ont dit, ah tiens, il y a une prophétie de Michée, du prophète Michée, 8 siècles avant Jésus-Christ, qui avait dit que ça serait à Bethléem. Donc, ils ont dit, hommage, ben, le texte dit Bethléem. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mages sont partis vers Bethléem. Et là, ils ont été de nouveau remplis de joie parce qu'ils ont à nouveau vu l'étoile. Hein, le texte nous dit, lorsqu'ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Hein? C'était la même étoile qu'ils avaient vue en Orient et qui allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils ont été remplis de joie en trouvant l'étoile de nouveau qui leur indiquait l'endroit précis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés, ils ont vu le petit enfant avec sa mère, ils se sont prosternés, ils ont adoré et ils ont offert des cadeaux. Qu'est-ce qu'ils ont offert ? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et l'Église a vu, donc l'Église en général, a vu une valeur symbolique dans ces cadeaux. Hein? Parce que l'or, c'est un métal royal. C'est quelque chose qu'on peut offrir à un roi. Donc pour eux, pour l'Église, ça affirme la royauté du Messie. L'encens, c'est une matière odorante qu'on offre à un dieu. Donc c'est pour marquer la divinité du Christ. C'est aussi une allusion possible à la prière et au rôle que Jésus a comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et la myrrhe, c'est utilisé pour embaumer les morts. Donc ça fait penser à l'œuvre de la mort de Jésus à la croix comme sauveur. Donc les mages ont été guidés par cette étoile parce que Dieu a choisi ce moyen là pour les amener. Mais ensuite, il a utilisé les Écritures pour les amener précisément à l'endroit où il fallait aller. Tout à l'heure, nous avons entendu le conte des trois sapins. Il s'agit d'un conte de Noël. Donc un conte, c'est quelque chose qui est imaginé. Mais ça fait référence à quoi ? Il y avait la référence de cette mangeoire qui a servi de berceau au moment de la naissance de Jésus. Il y avait aussi la référence à cette barque qui parlait quand Jésus a calmé cette tempête. Et quand on lit les évangiles, il nous parle comment au cours de 3 ans de ministère, Jésus a montré qu'il était tout puissant, pas seulement sur la nature, mais aussi sur la maladie, sur la mort et même sur les démons. Jésus, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est plus qu'un homme bon dont on puisse s'inspirer, ou d'un homme sage dont on puisse suivre l'exemple. Parce que la croix nous parle de l'endroit où Jésus est mort. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus ? Parce que personne ne peut voir Dieu, mais Dieu a envoyé Jésus pour que nous le connaissions. Il est écrit de Jésus, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus a déclaré, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus a dit que ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Si nous pensons connaître le chemin, on n'a pas besoin d'une carte ou d'une boussole ou d'un guide pour nous montrer où aller. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et pour ça, je me souviens d'une histoire il y a quelques années en arrière, quand nos garçons étaient petits. Un jour, on a voulu découvrir la forêt de Montmorency. On habitait la région parisienne à cette époque-là. Et aller dans une forêt, c'était vraiment un endroit spécial pour le dimanche après-midi. Alors on s'est dit, allez, on y va. On avait regardé sur la carte, on avait une idée générale d'où il fallait aller. On est parti. Et puis au bout d'un petit moment, il y a un des garçons qui a dit, « Papa, on est où ?» Et James a dit une phrase qui, à ce jour, est restée quelque chose de très symbolique dans la famille et qui revient de temps en temps, c'est « On est là où on est ». Et ça voulait tout dire. On est là où on est. C'est-à-dire, ouais, on sait à peu près où on est, mais on ne sait pas exactement non plus où on est. Mais éventuellement, on a trouvé la forêt, une forêt magnifique, où on est souvent retourné. Mais chose étonnante, les fois suivantes, le chemin était beaucoup plus rapide pour aller à la forêt. Parce que là, on savait comment il fallait y aller. On n'avait plus besoin de tourner dans toutes ces rues et tout. Et souvent dans la vie, c'est comme ça. On pense savoir où on est, mais en fait, on ne sait pas vraiment où on en est. Est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez où vous allez dans la vie? Et peut-être que votre vie, elle a pris une direction différente de ce que vous attendiez. Et maintenant, vous ne savez pas quel est le nouveau sens de votre vie. Jésus est venu parce que nous sommes perdus, égarés, loin de Dieu. Mais encore, il faut qu'on soit conscient de cela. Parce que le nom de Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Mais il sauve de quoi? Tout à l'heure, je lisais ce passage où Jésus a dit « C'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, c'est les gens malades. » Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, aller chez le médecin, j'aime pas trop. Et pourtant, le médecin, c'est une amie et elle est super gentille. Donc, j'ai aucune raison d'avoir peur d'aller chez elle. Mais, en général, aller chez le médecin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que je suis en bonne santé, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Même si je suis un petit peu moyen, je vais pas aller voir le médecin parce que je dis « Oh, je peux me soigner moi-même. Je vais prendre la tisane de thym, je vais prendre ceci, je vais prendre cela. » Je peux m'en sortir toute seule, je n'ai pas besoin du médecin. Je vais voir le médecin quand j'ai vraiment besoin. Et je me posais la question par rapport à ça. J'ai été malade toute la semaine. Et là, ma voix, elle est encore... elle n'est pas là, complètement. Mais cette semaine, lundi matin, je suis allée voir le médecin. Chose qui est inhabituelle. Normalement, j'attends 4-5 jours. Mais je savais que je devais parler aujourd'hui, alors je me suis dit, il vaut mieux aller voir le médecin de suite, pour qu'elle me donne quelque chose pour régler le problème, pour pouvoir parler samedi. Elle m'a donné quelque chose, mais c'est toujours pas là. Ça prend du temps. Mais j'ai réfléchi à ça. Pourquoi cette peur d'aller voir le médecin? Pourquoi il n'y a pas cette envie? Parce que quelque part, il y a la peur au fond de nous. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'il va me demander de faire? Quel traitement il va me donner? Combien ça va me coûter? Il y a toutes ces questions qui sont là et qui, quelque part, mettent une retenue. Et puis aussi, excusez-moi, l'idée, si je vais voir le médecin, c'est que c'est grave. C'est que moi, je ne peux pas m'en sortir. Et donc, on préfère repousser tout ça en disant, non, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin, ça va bien. Hein, moi, je vais bien. Et on peut être en train de tousser, de cracher, d'avoir... Je pense que vous pouvez vous imaginer, parce que j'imagine que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. On peut se dire dans la vie que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème avec nous. Et on peut laisser paraître aux autres que tout va bien. Mais enfin, si on regarde au fond de nous-mêmes, on sait ce qui ne va pas. Hein, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on sait quels sont les soucis et les problèmes qui sont là, qu'on ne sait pas comment on va sortir de là. Il peut y avoir aussi toutes ces blessures qui sont au fond de nous. Peut-être des paroles blessantes que les gens ont dites. Ou des moqueries. Ou le fait qu'on est toute seule. Que les gens nous ont abandonnés, nous ont rejetés. Que certains ont abusé de nous. Ils étaient, oui, t'es mon ami, parce qu'ils voulaient prendre quelque chose de nous. Et puis, une fois qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, ils nous ont rejetés. Ou peut-être il y a eu de l'abus physique ou verbal parmi certains d'entre vous, que vous avez dit à personne, mais toutes ces souffrances qui sont là, qui s'accumulent au fond de vous. Vous ne voulez pas en parler parce que, à qui vous allez le dire? Comment les gens vont vous traiter? Comment est-ce qu'ils vont vous regarder si vous racontez ça? Est-ce qu'ils vont vous mépriser? Est-ce qu'ils vont vous insulter? Est-ce qu'ils vont vous rejeter? Et on a tout au fond de nous des choses comme ça qui nous font mal. C'est peut-être une situation dans la vie ou des choix qu'on a fait dans le passé, on regrette d'avoir fait ces choix, mais on ne peut pas revenir en arrière. Ça nous a conduit dans une direction qu'on ne voulait pas, mais on ne peut pas revenir. On est coincé, on vit avec ça, peut-être avec des culpabilités qui sont là, des bonnes choses qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas fait, et qu'on sait que c'est trop tard, on ne peut plus les refaire. Ou des mauvaises choses qu'on a fait et qu'on aimerait les effacer, revenir. Mais on peut pas faire comme les films et revenir en arrière. Dans la vie, ça n'existe pas. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui sont là et qui pèsent. Et il y a aussi toutes ces attentes qui sont sur nous, dans la société, que nous-mêmes, on peut mettre sur nous-mêmes. Hein, les attentes, il faut être à la hauteur. En tant que femme, dans la société, il faut faire votre place. Il faut, en tant que maman... il y a toutes sortes d'attentes qui sont là. Il faut donner, donner, il faut faire. Il faut toujours porter un masque, que tout va bien, même si au fond de nous, on sait que tout est brisé. Et c'est ce cri, mais qui c'est qui va m'aider? Qui c'est qui m'écoute? Qui c'est qui peut faire une différence dans ma vie? On a toutes ces souffrances-là, mais on les cache, on dit non, tout va bien. Hein, quand on vous demande comment ça va? Ça va bien, merci. Et puis derrière, c'est « Oh, si seulement tu savais, si seulement tu pouvais faire quelque chose. » Et souvent, on a tendance à regarder Dieu de la même façon. On voit Dieu comme le médecin. On lui dit « Non, je ne vais pas aller le voir. Hein? » Parce qu'on a une fausse conception de qui est Dieu. Dieu, ce n'est pas le Père Noël qui vient, qui nous donne des cadeaux si on est gentil et qui s'en va. Et qui est juste là pour nous donner, donner. « Tiens, tu as été bien, je te donne ça. » Il n'est pas là non plus pour récompenser quand « Tiens, ah, bravo !» Non, c'est pas ça, Dieu. Mais en même temps, c'est pas le père fouetteur qui dit « Ah, oh, tu as fait quelque chose de mal, tac, paf !» Il n'est pas là en train de guetter la moindre de nos gestes pour nous tomber dessus. Ça, c'est une fausse conception souvent qu'on a de Dieu. Et lorsqu'on commence à regarder la vie de Jésus, on découvre que ce Dieu qui a créé tout l'univers, mais chacun de nous, on compte à ses yeux. Jésus, il a montré par sa vie, il a brisé beaucoup de tabous et il a montré que chaque individu avait de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Notre valeur ne vient pas de ce qu'on fait, de nos succès ou de nos échecs, mais Dieu nous aime parce qu'il nous a créés et c'est ça qui donne de la valeur à ses yeux. Il veut prendre soin de nous, il veut s'occuper de nous. Et on ne peut pas voir Dieu, mais Jésus est venu. Et Jésus, l'autre nom qu'il donnait à Jésus, c'est Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu avec nous. Et donc, quand on regarde la vie de Jésus, on découvre un peu plus de qui est Dieu. Ce Dieu qu'on ne peut pas voir, mais qui pourtant nous aime tellement. De même, si on croit qu'on est juste, on ne voit pas besoin de changer d'attitude. Jésus disait, je suis venu pour montrer... Il disait ça. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et tant que moi, je me crois juste, je n'ai pas besoin de changer d'attitude, mais c'est bien ce que je fais. Mais le problème, c'est que, aux yeux de Dieu, on n'est pas juste. Même si nous, on se croit juste. Et tant qu'on peut s'en sortir tout seul, avec nos actions, notre religion, nos bonnes œuvres ou quoi que ce soit, on ne voit pas le besoin d'un sauveur qui vienne nous délivrer de l'emprise du péché. Mais qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, en fait, c'est cette tendance qui est en nous à vouloir nous mettre, nous, à la place de Dieu, à dire, c'est moi le maître, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce qui est bien de ce qui est mal. Et comment on fait ça? C'est pas forcément en faisant des mauvaises choses, c'est pas forcément l'immoralité, le péché. Ça peut être faire de très bonnes choses aussi, mais pour dire, regardez-moi. C'est pour nous mettre nous en avant. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, ça peut être la calomnie, dire du mal des autres pour les écraser. Hein, pour comme ça, ça me met moi en hauteur. Donc, le péché, c'est quelque chose avec lequel on est. On est dans le péché. Et il n'y a rien qu'on peut faire avec, contre ça. C'est la réalité dans laquelle nous vivons de nos jours. Et Dieu ne nous tient pas responsables du fait qu'on est né dans le péché. Parce qu'il sait que c'est la réalité. Mais par contre, Dieu, il a envoyé une solution pour nous sortir de cet état de péché. Pour qu'on soit plus prisonnier de ça, mais qu'on puisse changer. Voilà, c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Et il est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a porté les péchés de beaucoup et il est intervenu en faveur des coupables. La réalité, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. La séparation avec Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, tout à l'heure, nous avons vu ces mages qui, par la foi, sont partis en disant « On croit que ce Sauveur est venu » et ils sont allés le chercher. Leur espérance n'a pas été déçue parce qu'ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été remplis de joie. Remplis de joie, pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé celui qu'ils cherchaient. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, ils sont entrés dans la maison. Ils ne se sont pas consentis de rester dehors, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus, c'était plus qu'un nouveau-né. C'était vraiment celui, le sauveur qui avait été promis depuis si longtemps. Et nous, on peut faire comme ces mages. On peut avancer par la foi et croire que Jésus est vraiment ce sauveur qui est venu nous libérer du péché. Et quand on reconnaît qui il est, qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon faire ce qu'ont fait les mages. Ils l'ont vu, ils se sont prosternés devant lui en reconnaissant qui il était. Et donc quand on reconnaît qui il est et pourquoi il est venu, tout ce qu'on peut faire c'est simplement venir devant lui et demander pardon de que pendant si longtemps on a marché loin de lui, on a marché loin de Dieu sans chercher à le connaître, en nous prenant nous-mêmes pour Dieu, en rejetant Dieu ou en l'ignorant, peut-être parce qu'on n'avait jamais entendu parler de lui avant, ou peut-être parce qu'on avait décidé, j'ai pas besoin de lui, je peux m'en sortir toute seule. Mais Jésus nous invite à changer d'attitude. Il a dit, je suis venu appeler les pécheurs à changer d'attitude. Non seulement il nous invite à le faire, mais il nous en donne aussi la possibilité en nous disant de le suivre chaque jour. Il nous invite à demeurer dans son amour, à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, à ne pas laisser le trouble gagner nos cœurs, mais à recevoir sa paix. Il a dit que nous aurons des tribulations, des difficultés dans le monde, mais de ne pas perdre courage car il a vaincu le monde. Il nous prépare une place dans le ciel, il nous en montre le chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Alors ma question pour vous, est-ce que vous connaissez le Jésus dont parlent les évangiles? Est-ce que vous l'avez rencontré comme l'ont fait les mages? Ou est-ce qu'il est juste une tradition pour vous, qu'on célèbre à Noël, qu'on célèbre à Pâques? J'avais entendu parler de Jésus depuis toute petite. Je croyais en lui, mais il n'avait pas vraiment de place dans ma vie. Oui, le dimanche, j'allais à l'église, je pensais à lui. Quand j'avais besoin de lui, je l'appelais, je priais. Mais le reste du temps, ça allait. Et un jour, j'ai pris conscience que j'étais assise entre deux chaises. Et chaque fois que je pense à ce moment-là, c'est vraiment cette image qui me vient. J'étais assise entre deux chaises. D'un côté, c'est je crois en lui, mais je n'ai pas besoin de lui. Seulement quand j'ai envie ou quand j'ai besoin, je me tourne vers lui. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que Jésus est Dieu. C'est pas seulement quand j'ai envie, mais c'est tout ou rien. Soit Dieu existe, soit la Bible, et la Bible dit la vérité, et alors il faut le suivre pour connaître Dieu. Soit c'est pas, Dieu n'existe pas et la Bible ne nie pas la vérité, alors ça vaut même pas la peine d'aller à l'église et de prier. On se moque de qui en faisant ça? On se moque de nous-mêmes, parce qu'on prétend les choses. On ne peut pas se moquer de Dieu, il voit nos cœurs. Et c'est soit tout, soit rien. On ne peut pas être assis entre deux chaises. Et donc quand j'ai pris conscience de cela, j'avais un choix à faire. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais choisir de croire que Dieu existait, que ce que la Bible disait est vrai? Ou est-ce que j'allais dire non, il n'existe pas? Il y avait trop de choses en moi qui me montraient que Dieu existait. Parce que quand on regarde l'univers tout autour de nous, on ne peut pas dire, oh, c'est le fruit du hasard. Quand on regarde un tableau magnifique, on dit, oh, quel artiste, qu'est-ce que c'est magnifique. Quand on voit une voiture et qu'on regarde comment ça a été conçu, on dit, waouh, quel talent et tout. Et puis après, on regarde l'univers tout autour de nous et on dit, oh, c'est le fruit du hasard, ça s'est passé comme ça, pioup. Et puis un jour, c'était là. Non. Si on est logique avec nous-mêmes, on doit réaliser que toute la nature autour de nous nous montre qu'il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, ça veut dire que ce que la Bible dit de lui est la vraie vérité, et qu'il a créé chacune de nous, et qu'il aime chacune de nous, et qu'il veut qu'on le connaisse. Alors, pour moi, j'ai découvert que ce Jésus dont la Bible parlait, c'était la vérité. Et aujourd'hui encore, il continue d'être vivant dans ma vie. C'est lui qui m'encourage, qui me soutient. Quand je suis bas, au plus bas, c'est lui qui me relève, qui me donne de l'espoir. C'est lui qui m'aide à aller de l'avant quand c'est difficile. Il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer en tout temps. Mais en plus, ce qu'il y a de merveilleux avec Jésus, c'est qu'il me parle de l'amour de Dieu pour moi. Que Dieu m'aime tel que je suis, malgré mes faiblesses, malgré mes défauts. Dieu m'aime parce qu'il m'a créé et il aime chacune de vous parce qu'il vous a créé. Et je n'ai pas besoin de mériter cet amour. Vous n'avez pas besoin de le mériter parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est pour ça qu'il nous a créés, parce qu'il nous aime. Alors on peut croire que Jésus existe. On peut croire qu'il est mort pour nous sauver. On peut même prier une prière de repentance à un moment dans notre vie. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Parce que Dieu, ce n'est pas une assurance tout risque, incendie inclus. Hein? Vous savez, je coche les cases. Ok. Ouais, je veux être sûre qu'il n'y a pas la clause incendie inclus là-dedans. Non. Dieu, c'est pas, Jésus n'est pas venu pour nous éviter la condamnation, le jugement à venir. Dieu est venu pour nous faire connaître. Dieu a envoyé Jésus pour nous faire connaître Dieu. Jésus a dit, suis-moi, demeure avec moi. Ça implique une relation, une démarche. C'est pas quelque chose de fixe. Hein? C'est quelque chose qui demande d'avancer jour après jour, de parler avec lui, d'être à ses côtés, de l'écouter, de le suivre. De pas faire les choses par devoir, mais par amour pour lui, pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Et si on revient à notre idée de voyage du départ, Jésus, c'est le compas. Mais c'est plus que le compas. Il est le guide. Il est pour notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours, cette vie que Dieu veut que nous ayons avec lui. Pas non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Et Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vous prépare une place. Alors, en ce temps de Noël, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes attaché à des traditions ou à la réalité? Est-ce que vous connaissez le Jésus dont parlent les évangiles? Est-ce que vous avez de lui une connaissance intellectuelle ou est-ce que vous le connaissez personnellement? Et est-ce que vous le suivez chaque jour? Est-ce que vous marchez à ses côtés? Et si vous le connaissez pas, je vous invite à prendre un évangile pour apprendre à le connaître personnellement comme un frère, comme un ami et à le suivre. Merci.